Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2. Rencontre avec Nicolas Da Silva autour de son livre « La bataille de la Sécu, une histoire du système de santé » paru aux éditions La Fabrique. Le 27 octobre 2022 à la librairie Terra Nova.
Bonsoir à tous et toutes. Merci d'être venus nombreux et nombreuses. J'espère qu'il ne fera pas trop chaud. On pensait qu'au mois d'octobre... on aurait un peu moins chaud pour les rencontres, mais c'est bien, il y a du monde, vous m'entendez au fond? Ça va? Il faut que je parle fort. Quoi. Donc merci d'être là, on va accueillir ce soir, on accueille Nicolas Da Silva qui vient nous parler, vous le savez, de la bataille de la Sécu, une histoire du système de santé parue il y a quelques jours aux éditions La Fabrique. Il reste quelques exemplaires du livre, il s'en est déjà vendu pas mal. Donc vous les retrouvez devant la caisse. Un livre qui nous fait vraiment voir la sécurité sociale et l'état social d'une autre façon. Donc merci pour ça, parce que avec les essais qui nous amènent à changer notre regard sur des choses qu'on pensait évidentes, c'est toujours très stimulant. Voilà. Donc je vais laisser Nicolas Da Silva nous présenter son livre. Merci d'être là. Je rappelle parce qu'il ne le dira peut-être pas, mais qu'il est professeur d'économie, maître de conférence en économie à l'université Paris 13, Paris-Villetaneuse. Et la rencontre sera enregistrée, donc si les échanges vous intéressent, vous les retrouverez sur le site de Canal+, et sur notre site internet, et vous pourrez comme ça faire circuler les débats et les échanges. Voilà. Donc petite présentation, puis un échange avec le public. Merci beaucoup.
Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. Je voudrais, excusez-moi, d'abord remercier Fabrice pour m'avoir invité. Le remercier pour cette librairie qui est incroyable. Enfin, franchement, moi, je me suis promené un peu. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Il y a des bouquins de folie, quoi. Enfin, je veux dire. Ouais, non, mais c'est la vérité. Moi, j'arrive là. Vous avez vu la vitrine? Ben, là, il fait un peu nuit, mais regardez la vitrine. C'est comment? C'est dans le feu de l'action, c'est que des bouquins incroyables justement sur les luttes, sur les mouvements sociaux, etc. Et c'est un peu de ça dont va parler, enfin dont parle le bouquin que je présente ce soir. Donc merci d'être là. Surtout, n'hésitez pas éventuellement si je dis des trucs qu'on comprend pas, si enfin s'il y a des problèmes de compréhension, il faut pas hésiter hein, plus à m'interrompre et éventuellement pour que ce soit un peu dynamique. Parce que voilà, l'enjeu c'est pas de faire un cours, d'autant plus qu'il y a probablement plein de choses qui sont contestables dans ce que je raconte. Mais je me défendrai. Alors ce livre, l'idée du livre, en fait, elle vient d'une question naïve. Alors et cette question naïve, elle me vient pas du tout de ma formation d'économiste. Je sais pas s'il y en a qui ont vu un peu à quoi ça ressemble l'économie à la fac. En fait, c'est très très chiant. Donc c'est pas ce genre de bouquin. Parce que moi, ça m'intéresse pas beaucoup. Alors, j'en ai fait, hein, bien sûr, mais c'est pas vraiment ce genre de bouquin, parce que l'économie à la fac, souvent, c'est des questions qui sont très très techniques, qui sont très parcellaires, qui se posent des petites questions. Alors qu'en fait, il y a plein de questions très très importantes, dont les réponses sont beaucoup plus importantes pour le mouvement social, pour la compréhension de notre monde, de la façon dont on aimerait le changer, parce que je pense qu'on aimerait le changer. Et alors, quelle est cette question? En fait, Moi, comme vous, je ne sais pas, quand on parle de la Sécu, on en parle toujours d'un point de vue un peu dépréciatif, un peu déprimant. C'est évidemment le trou de la Sécu, c'est il n'y a pas assez d'argent, c'est vous rendez compte les milliards de déficits, etc. etc. Et bah, il faut réformer, et puis il faut évidemment faire attention aux abus, à la fraude. Et évidemment, c'est toujours les abus et la fraude des bénéficiaires, d'autant plus s'ils sont pauvres, parce qu'ils sont toujours susceptibles d'être des opportunistes, etc. etc. Donc, enfin, je veux dire, moi, mon rapport à la Sécu, avant même d'être économiste, mais après, une fois que quand je suis économiste, alors on n'en parle pas vraiment comme ça, c'est pas les mots, mais on change les mots, mais la réalité, c'est la même. Et on se dit, eh ben, c'est incroyable, la Sécu, c'est un problème. Et en fait, c'est un problème, mais c'est pour la sauver qu'on pose les questions comme ça. Les économistes ne disent jamais, et les réformateurs, ils disent jamais qu'on va réformer la Sécu pour donner moins de droits aux gens. C'est toujours pour sauver la Sécu. Et en fait, en y réfléchissant et en commençant à avoir, pour tout un tas de raisons, une perspective un peu historique, arrive une question très très naïve, mais finalement qui constitue un peu le cœur et la raison d'être de ce bouquin. En fait, pourquoi on a fait la Sécu ? C'est très étonnant. Alors moi, évidemment, je vais dire Sécu toute la soirée, mais au sens sécurité sociale, bien sûr, mais dans d'autres sens que j'essaierai de développer plus tard. Mais surtout, mon objet, c'est la santé. Et donc, pourquoi on a fait la Sécu ? Et cette question, elle prend du sens quand on réfléchit à un des moments fondateurs de la sécurité sociale, le régime général de 1946. On le fait au moment où, en fait, la France sort de la guerre, on sort de la Seconde Guerre mondiale. Les gens mangent avec des tickets rationnement. Il y a des pénuries de tout. Hein, les gens qui vivent cette période, ils sont dans une situation de pauvreté ou de richesse hein, qui est bien plus dramatique que la nôtre. Et pourtant, ils font la Sécu. Nous, on n'a jamais été aussi riches. Alors, on ne sait pas ce que nous réserve là la crise énergétique qui arrive. Hein. Mais globalement, si on prend les indicateurs économiques qu'on peut contester, dont on peut dire que ce serait quand même bien de prendre d'autres indicateurs, mais si on prend les indicateurs économiques, on n'a jamais été aussi riches. Ce sera peut-être un élément qui reviendra tout à l'heure dans la discussion. En fait, la sécurité sociale, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle est dans une excellente santé financière. Et pourtant, on décide de ne pas étendre la sécu. Eux l'ont fait en 1946, alors qu'ils étaient dans une situation de pauvreté extrême, ils sortaient de la guerre. Et nous, aujourd'hui, alors qu'on a rarement été aussi riches, on ne pourrait pas l'étendre. On ne pourrait pas, par exemple, rembourser les soins plutôt aux alentours de 80%, 70% en médecine libérale, par exemple. On ne pourrait pas faire 100%. Alors qu'on sait que ça pose tout un tas de problèmes de santé publique, que les gens renoncent aux soins, que comme ils renoncent, et après ils reviennent, ils sont plus malades et ça coûte plus cher. Enfin, tout ça marche sur la tête. Et alors pourquoi on le fait pas ? C'est cette question qui m'intéresse. C'est pourquoi on a pu le faire à un moment, alors qu'on était plus pauvre, et qu'on ne l'étend pas aujourd'hui, alors qu'on est plus riche. Et en fait, c'est cette question qui m'amène à essayer de prendre un regard historique sur le temps long. Alors pas un regard d'historien, parce que moi je suis pas historien, je suis incapable, en tout cas je l'ai jamais fait, aller voir les archives, etc., etc. Mais on a plein de sources en sciences sociales, en histoire notamment, mais pas seulement, qui nous expliquent un peu quels sont les moments forts de la construction du système de santé, de la sécurité sociale en particulier. Et donc ce que j'essaie dans ce bouquin, c'est d'avoir une lecture, une analyse. Et ma question, c'est pas de savoir est-ce que la Sécu ça marche. L'implicite, j'en parle bien sûr, mais l'implicite, c'est qu'évidemment que ça marche. La Sécu, ça marche mille fois mieux que des complémentaires santé. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de débat là-dessus. Bon, on pourrait en reparler, bien sûr, mais ça marche mille fois mieux. L'hôpital public, quand il n'est pas sous-financé comme actuellement, ça marche mieux. Enfin, je veux dire, pareil. Donc l'implicite, que je pourrais évidemment discuter tout à l'heure, c'est que la Sécu, ça fonctionne mieux. Et la question, c'est pourquoi ? Un moment, on décide de le faire, et à d'autres moments, on décide de ne pas le faire. Et donc, ma question, c'est une question un peu de changement. Et en fait, ce qui est au cœur du bouquin, c'est de dire que le changement, ce n'est pas du tout dans le débat parlementaire, dans des élections, dans la capacité à convaincre des opposants politiques. Mais en fait, la Sécu, les institutions de la sécurité sociale, elles sont le produit du conflit. Et des conflits très violents, que sont les guerres, mais aussi les révoltes et les révolutions. L'enjeu, c'est d'essayer de montrer ça et de montrer qu'en fait, il y a deux grands types de formes de protection sociale selon qu'elle est dirigée soit par l'État, et je vais appeler ça l'État social, donc c'est des politiques sociales qui sont dirigées par l'État, mais ces mêmes politiques sociales, elles peuvent être aussi dirigées par les intéressés eux-mêmes, et ça va changer plein de choses. Et ça, j'appelle ça dans mon bouquin la sociale ou l'auto-organisation, on peut donner plein de noms à ça. Et alors, quelle est la première chose qu'on voit quand on fait ce travail un peu de recul historique Le truc qui est incroyable, et alors je donne plein de citations dans le bouquin de gens en différentes périodes, hein, qui montrent ça, qui montrent quoi ? Bah, qui montrent que les débats tels qu'on se les pose aujourd'hui, en fait, ça fait 200 ans qu'ils sont posés comme ça. Hein ? 200 ans parce que je commence à la Révolution française, pour des raisons qui sont liées à l'évolution du capitalisme et la construction de l'État en France. Mais les questions qui se posent, elles se posent de la même façon dans le comité de mendicité au moment de la Révolution française et aujourd'hui. En fait, les grands thèmes, c'est est-ce que l'État doit intervenir ? Est-ce qu'on doit mettre en place de la libre prévoyance ? Est-ce qu'il faut contraindre le capital, les entreprises ? Et en fait, la plupart du temps, les réponses qui sont données par les dirigeants, par les représentants, qu'ils soient élus ou qu'ils soient liés à l'Empire ou à la monarchie, qui reviendra un peu plus tard, bah, c'est non. C'est non parce qu'il faut favoriser la libre prévoyance et il faut surtout faire attention aux abus. Parce que si on donne des droits aux gens, ils vont abuser. Et donc nous, on a l'impression parfois, quand on écoute la télé, on se dit, enfin, il y a tout un tas de problèmes. C'est vrai, c'est notre monde nouveau qui crée ces problèmes. Et souvent, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit, oui, la sécurité sociale, c'était bien avant, mais le monde a changé. Le monde a changé. Aujourd'hui, les gens abusent plus. Ils vont plus facilement aller toquer à la porte du médecin. Le monde a changé. C'est la mondialisation. Et maintenant, nos entreprises sont en concurrence avec des entreprises étrangères. Et donc, tout un tas d'arguments comme ça, en fait, qui sont d'une régularité historique absolument incroyable. Du coup, la question, mais qu'est-ce qui change ? Ce qui change, c'est le niveau de conflictualité sociale, la capacité de certains acteurs à imposer des institutions de protection sociale plutôt que d'autres. Et donc, tout le bouquin commence comme ça. Et à la Révolution, c'est un moment important, et c'est pour ça que je commence là, parce que, en fait, c'est un moment symbolique du passage de la société féodale, où ceux qui s'occupent du soin, pour aller vite, c'est le clergé, à la société, disons, capitaliste, où finalement, on va se poser la question, qui va prendre le relais du clergé ? Parce que dans la société féodale, qui est une société d'ordre avec des nobles, le clergé et le tiers d'État, le rôle du clergé, la raison pour laquelle il perçoit la dîme, la raison pour laquelle il a plein d'exemptions fiscales, la raison pour laquelle c'est un ordre privilégié, c'est parce qu'il dirige moralement la société, mais aussi, il va faire la charité. Et l'histoire des hôpitaux, toute l'histoire des hôpitaux médiévaux, c'est aussi, et peut-être d'abord, l'histoire de la charité chrétienne, où finalement, c'est l'une des fonctions de l'Église. En fait, ce qui se passe dès avant la Révolution, mais qui va être radicalisé par la Révolution, c'est la déchristianisation de la société, et le recul progressif de cet ordre, de ces groupes sociaux qui sont liés au clergé. Et en fait, tout simplement, les gens qui s'occupaient de prendre soin alors, des personnes en mauvaise santé, mais aussi des orphelins, des handicapés, des vieux, etc., etc., ces gens ne sont plus en mesure de le faire. Et ils sont d'autant moins en mesure de le faire que parallèlement, il y a le capitalisme et le capital comme rapport social de production, le fait qu'on sépare le travailleur de ses moyens de production, qui va créer des conditions de travail qui vont broyer les gens. Et ça, c'est des trucs assez classiques. Hein. Chez Marx, Engels, quand on lit les chapitres les plus faciles à lire, par exemple dans Le Capital, c'est quand il explique que le travail sous les ordres du capitaliste, ça fait diminuer l'espérance de vie des gens. Ça fait diminuer la qualité de vie des gens. Ça fait diminuer le nombre de naissances, souvent en Angleterre, parce qu'il parle beaucoup du cas anglais. Mais c'est quelque chose qui est assez connu. Donc d'un côté, on a les anciennes institutions qui s'effondrent, une nouvelle, de l'autre côté, de nouvelles façons d'organiser la société qui posent de plus en plus de problèmes de santé. Et dans cet entre-deux, qu'est-ce qu'on fait ? La Révolution va poser la question, est-ce que c'est l'État qui va intervenir ? Et les révolutionnaires, ils ont plein de réponses. Vous savez que la Révolution, elle est très contradictoire, avec un coup des plus radicaux, un coup des moins radicaux, plus conservateurs, voire réactionnaires, qui prennent le pouvoir. Et par exemple, en 93, c'est le moment où il y a le plus de choses qui sont prévues. Et donc il y a plein de lois. Et par exemple, une loi qui dit que qui est votée pour dire que dans tous les districts, dans toutes les localités, il va y avoir un officier de santé qui sera là et qui pourra donner des médicaments aux gens lorsqu'ils seront lorsqu'ils seront malades. Donc tout ça est déjà pensé, tout ça est déjà réfléchi. Face à ça, avant 93, après 93, ceux qui sont les dominants de l'époque vont dire oui, non, on ne peut pas faire ça parce que ça va coûter très cher à l'État et ça va inciter aux abus. Et donc en fait, la vraie réponse à l'issue de la Révolution, c'est non. L'État ne doit pas intervenir, la collectivité ne doit pas intervenir. Ceux qui peuvent intervenir encore, ça va être les restes du clergé, notamment avec la gestion des hôpitaux, qui, si elles passent sous l'autorité des communes, il y a encore, par exemple, beaucoup de religieuses qui travaillent gratuitement dans les hôpitaux et vont continuer à travailler gratuitement dans les hôpitaux jusque dans le 20e siècle. Donc, comme on n'organise pas un financement des soins, c'est très difficile d'accéder aux soins. Et en fait... Tout le système de santé va être au ralenti au 19e siècle. Il se passe plein de choses au 19e siècle, mais le système de santé est au ralenti parce que finalement, il n'y a pas de façon de solvabiliser la patientèle. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les classes travailleuses urbaines et rurales? Elles sont entre deux feux. D'un côté, l'État refuse de mettre quelque chose en place. De l'autre côté, le capital, dans les entreprises, organise des conditions de travail qui les tuent. Dans cet entre-deux, Les ouvriers, surtout, ils vont être menés à s'auto-organiser pour créer leurs propres institutions. Alors, ce n'est pas forcément par vertu qu'ils le font, mais c'est surtout par nécessité, parce que c'est soit ça, soit rien. Et donc, ils vont utiliser une forme de sociabilité qui existe dans l'ancien régime, qui est les sociétés de secours mutuels. Sociétés de secours mutuels qui sont en fait interdites mais tolérées par le pouvoir, dans lesquelles ils vont cotiser pour pouvoir s'organiser, donner des soins, des bénéfices aux membres, mais aussi de façon tout à fait illégale, parce qu'à cette époque-là, toute forme d'organisation contre le patronat ou contre l'État est interdite, organiser la lutte. Et ces sociétés de secours mutuels, elles sont très importantes parce qu'elles montrent que face à l'inaction déterminée, c'est les gens, quand ils s'auto-organisent, quand ils prennent la responsabilité de faire par eux-mêmes, qui vont créer les premières institutions vraiment de prise en charge des soins. Sauf que ces sociétés de secours mutuels, elles sont interdites, et le pouvoir va essayer de mettre la main dessus. Alors, il le fait tout au long du 19e, par exemple, en considérant que c'est peut-être un moyen pour limiter la combativité ouvrière. En se disant que si c'est des sociétés de secours mutuels qui sont contrôlées par des notables locaux, alors ça va permettre de calmer la population, de faire en sorte qu'elle soit moins rebelle, moins révolutionnaire. Et donc il y a cet entre-deux tout au long de la première moitié du 19e siècle, et arrive quelque chose qui est très important à mon sens, parce que ça montre ce qui va se passer avec la Sécu en ce moment. C'est en 1852, avec l'Empire, Napoléon III, il va légaliser, il va changer d'attitude. Plutôt que d'être uniquement dans la répression, il légalise les sociétés de secours mutuels, mais pour en enlever toute la dimension subversive de l'ordre établi. Et il va créer deux statuts. Le statut de mutuel approuvé, dans lesquels il y aura un contrôle politique fort de l'Empire, et le statut de mutuel autorisé, où en fait les gens vont avoir le droit de s'auto-organiser. Mais comme ils n'acceptent pas le contrôle politique, ils vont être plus réprimés que les autres. Et c'est comme ça que va se séparer en France le mouvement social entre la branche qui deviendra la branche syndicaliste et la branche qui restera la branche mutualiste. Cette séparation, elle se fait de façon massive après la Commune de Paris. Mais on voit bien comment, en fait, le pouvoir politique cherche à se réapproprier les institutions sociales. Alors, ça, c'est ce qui se passe au 19e. Mais quand on arrive à la fin du 19e, l'État social, ça n'existe pas. Quand on regarde dans les stats, l'État légifère beaucoup, il contraint beaucoup. Cependant, dans les dépenses publiques, quand on regarde les statistiques des dépenses de l'État, il n'y a pas de différence significative entre 1914 et la Révolution française. L'essentiel du budget de l'État, c'est pour faire la guerre, l'armée, la police, etc., ou bien pour rembourser la dette qui a été contractée pour faire les guerres. Et donc, en fait, ce qu'on peut dire, et ce n'est pas quelque chose de très radical, des sociologues très bien et disent ça, par exemple, quelqu'un comme Castel dans les transformations les métamorphoses. Merci. De la question sociale, il explique ça. Il explique que, en reprenant d'autres, c'est quelque chose de très connu, que en fait, tout au long du 19e siècle, l'État social, ça n'existe que dans les discours. Et pourtant, le 19e siècle, c'est la période où les ouvriers, les travailleurs, ils meurent le plus au travail, ils souffrent le plus de cette situation. Et donc, ils ne font rien. Et qu'est-ce qui va donner naissance à l'État social ? À ceux qui sont au front, massivement, avec la conscription, mais aussi, il y a ceux qui sont à l'arrière et l'économie est totalement réorganisée. Cette guerre totale, en fait, elle va changer l'organisation même de la société. Souvent, moi, en cours, je ne sais plus vous, quand j'étais au lycée, même à la fac, quand on nous fait des chronologies, les guerres, elles sont souvent présentées comme des parenthèses entre des périodes de paix. Hein, avec cette idée, par exemple, souvent, quand on prend un bouquin d'histoire, il y en a probablement beaucoup ici, des super, les périodes, ça va être après 45, la France après 45. Sauf qu'en fait, c'est, d'une certaine manière, c'est induire les gens en erreur. Parce que le vrai début de période, c'est pas après 45, le vrai début de période, c'est 39. Parce que c'est avec la guerre que l'ordre social se modifie et que ce qui était impossible devient possible. Par exemple, en France, tout au long du XIXe siècle, je vous racontais, il n'y a pas de politique sociale possible. L'impôt sur les revenus est impossible. Il est en discussion depuis le début de la Troisième République en 1870. Et en fait, il n'est pas fait, jamais fait. Quand est-ce que naît l'impôt sur le revenu en France en 14? Parce qu'il y a la guerre. Et parce qu'avec la guerre, et une guerre qui entraîne toute la société dans son sillage, il est possible de faire des choses qui étaient impossibles politiquement autrefois. Et donc, qu'est-ce qui est fait ? Des nouvelles formes d'imposition, mais aussi des politiques sociales. L'un des effets les plus importants de la guerre sur les politiques sociales, c'est le fait qu'une fois que les gens reviennent de la guerre, il y a tout un tas de nouvelles populations par rapport auxquelles l'État se crée de nouvelles solidarités. Par exemple, les blessés de guerre. Des millions de blessés de guerre que l'État ne peut pas laisser comme ça sur le bas-côté, sinon il risque la révolte, la révolution, etc. etc. Des veuves, des orphelins. Donc une situation sociale qui est telle que, alors que l'État a toujours fait en sorte de ne pas intervenir dans le domaine social, il va commencer à intervenir massivement, et ça se retrouve dans les statistiques. L'État social, ce n'est pas un truc sympa. Parce que l'État n'a jamais, en France, l'État n'a jamais voulu mettre en place des politiques sociales ambitieuses. Lorsqu'il l'a fait, c'est après des périodes de guerre qui sont terribles. Et c'est pour ça que la thèse qui est liée, c'est de dire qu'il est impossible de séparer la main gauche et la main droite de l'État. C'est parce que l'État a emmené les gens à la guerre qu'il s'est contraint à créer de nouvelles solidarités. Les historiens parlent par exemple de l'impôt du sang. Les soldats ont payé l'impôt du sang. Et la contrepartie de cet impôt du sang, pour stabiliser l'ordre social, c'est de mettre en place des politiques sociales généreuses. Alors ça, c'est une première ligne d'historicité des institutions de la protection sociale. Mais il y en a une deuxième, qui est celle qui est la protection sociale auto-organisée, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ? C'est les mutuelles, les sociétés de secours mutuels d'après la Révolution, quand les gens n'ont pas d'autre choix que de s'auto-organiser. Ça va être la Commune de Paris. J'y reviens pas, mais c'est un moment incroyable où finalement, encore une fois, les communards, ils sont entre l'État et le capital, et c'est parce qu'ils sont dans une situation impossible à vivre qu'ils prennent le pouvoir pour mettre en place des politiques sociales qui sont inégalées jusqu'à ce moment-là, pour reprendre une expression d'un bouquin qui est probablement ici, sur la Commune de Mordia. Donc, les mutuelles, la Commune, mais surtout, ce qu'on connaît le mieux, et ce qui a laissé le plus de traces, le régime général de 1946. Qu'est-ce qui se passe en 1946? La Seconde Guerre mondiale en France est très particulière, puisque ce n'est pas simplement une guerre d'État contre État. Il y a en France, très tôt, la cessation des combats et l'organisation de la polarisation sociale entre un pôle qui est un pôle collaborateur et un pôle qui est un pôle résistant. Alors on pourrait même dire que ça commence avant, là, parce que la répression du mouvement social commence avant la guerre. Mais on voit qu'il y a une résistance à l'État, qui impose, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il n'est pas possible, il n'est pas envisageable, du point de vue des assurances sociales qui existent avant, de les confier à l'État, au gouvernement, comme ça se fait en Angleterre. Parce qu'il y a une défiance, il y a un pouvoir très important du mouvement social, les communistes, la CGT, etc. etc. Et en fait, s'il y a beaucoup de nationalisation, l'originalité de la sécurité sociale, c'est que ce n'est pas une nationalisation, c'est une socialisation. C'est-à-dire que le pouvoir de gestion est confié, au moins en partie, avec beaucoup de limites, aux intéressés eux-mêmes. Et l'une des originalités de la sécurité sociale de 1946, c'est justement ça. C'est le fait que, dans les caisses, vous avez 75% de représentants des cotisants, 25% de représentants du patronat. Et donc c'est ça qui donne un pouvoir sur l'institution et la capacité de chercher à l'étendre et aussi de chercher à la défendre. Et ça, évidemment, c'est l'originalité de 1946 qui est construite contre tout ce qui existe auparavant. Alors j'en ai pas parlé, il faut que j'en dise deux mots. Le régime général de 1946, qui s'occupe de la santé, enfin, là, du risque maladie, du risque retraite, des accidents du travail et de la famille, il ne vient pas sur un terrain vierge. Avant 46, il existe plein de choses. Sauf que ces caisses qui existent auparavant, elles sont sous le contrôle soit des mutualistes, qui sont totalement intégrés à l'élite de l'époque, soit au patronat. Le patronat, par exemple, gère beaucoup de caisses d'allocation familiale et donc il les gère à sa façon à lui, j'y reviendrai peut-être, ou bien encore le clergé, qui est très puissant dans la gestion des caisses. Pour les accidents du travail, depuis 1898, c'est le patronat aussi qui gère les caisses. Et donc, ce que fait le régime général, c'est qu'il récupère tout ça, il l'étend et il le donne directement aux ouvriers. Et c'est ça le scandale de 1946. C'est pas le fait qu'il y ait une sécurité sociale, c'est pas le fait qu'il y ait des politiques sociales. C'est le fait que ces politiques sociales, elles soient contrôlées par les intéressés eux-mêmes. Pas uniquement et pas principalement même dans l'ordre économique. Et alors on peut se dire, mais oui, d'accord, mais et alors ? Et alors, l'une des caractéristiques des assurances sociales qui existent depuis 1928-1930, l'une des caractéristiques des prestations qui sont fournies par les mutuelles tout au long du 19e siècle, c'est qu'elles sont complètement empreintes de paternalisme social. Parce que dans ces mutuelles approuvées, qui dirige ? Ça va être le maire, lui-même nommé par le préfet et par l'Empire. Ça va être un membre du clergé, ça va être ce qu'on appelle des membres honoraires, qui sont des notables locaux qui cotisent, mais qui ne perçoivent aucun bénéfice, et qui sont là pour faire quoi ? Enfin, c'est dans les textes, hein. Enfin, ils le disent comme ça, pour moraliser la classe ouvrière. Hein ? L'enjeu, ce n'est pas de donner des prestations, l'enjeu, c'est de moraliser la classe ouvrière. Et donc, à chaque fois, par exemple, qu'un cotisant est malade, un cotisant a un problème quelconque, il veut accéder à sa prestation, eh ben, il va y avoir une forme de police morale pour savoir si vous avez bien le droit d'accéder à votre prestation. Et donc, l'un des enjeux très importants avec le régime général de 1946, c'est qu'à partir du moment où vous avez des ouvriers qui dirigent une institution de politique sociale, ils ne vont plus avoir ce paternalisme social vis-à-vis des gens qui sont comme eux. Et ça c'est une grande libération. Alors on peut se dire, oui, mais là, il exagère quand même, dire que c'est du paternalisme social, et en fait, ce n'est même pas le mot qui le dit, et ça peut être quelqu'un qui est très... Qui est très bien en vue. Par exemple, Pierre Larocque, qui est le premier directeur de la sécurité sociale, lui-même le dit, que la mutualité est devenue un paternalisme social. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas concernés et qui vont décider pour les autres. Et évidemment, ils décident avec leurs objectifs à eux, qui sont des objectifs de stabilité de l'ordre social, qui sont des objectifs de stabilité financière, etc., etc. Et donc, les questions d'autorité, elles parcourent d'autorité. Bien sûr, d'autorité, c'est un lapsus, mais surtout d'austérité dans l'usage des fonds, elles sont tout le temps présentes tout au long du 19e siècle. L'un des acteurs, j'en ai pas parlé, c'est les médecins. Hein ? Les médecins qui sont alliés avec les mutualistes, avec les élites de l'Empire, les élites de la République, pour justement moraliser cette classe ouvrière et lui expliquer que quand même, vous êtes malade, mais en même temps, je vous connais, vous êtes un ivrogne, vous occupez mal deux enfants, vous n'allez pas travailler suffisamment souvent, etc., etc. Donc l'enjeu du contrôle politique sur l'institution, c'est un enjeu qui est central. Les classes dominantes, elles sont tout à fait capables à donner un peu d'argent pour mettre en place des politiques sociales. Ce qu'elles refusent catégoriquement, c'est de perdre leur pouvoir. Et l'enjeu de 46, c'est le pouvoir sur les institutions de la protection sociale. C'est pour ça que dès le début, et là, il faut y insister dessus, hein, c'est pour ça que dès le début, il y a une opposition massive au régime général. Pas à la sécurité sociale, hein, pas aux caisses, pas au fait qu'il y ait des caisses. Il y en avait avant, c'est pas un problème. Mais une opposition au fait que ces caisses soient dirigées par des ouvriers, par les cotisants directement. Et cette opposition, elle est dès le début. Et il ne faut pas du tout attendre, pour reprendre des thématiques très à la mode, qui ont une pertinence, hein, bien sûr, mais il ne faut pas du tout attendre des trucs comme le tournant des années 80, le néolibéralisme. Toutes ces choses-là, elles ont une réalité. Hein, je ne conteste pas cette réalité. Mais il n'y a pas de grand consensus au sortir de 1945-46 pour faire le régime général, et dès le début, il est combattu. Et dès le début, l'État, dans sa gestion, dans sa co-gestion du système de santé, il va chercher à privilégier le capital par rapport à une production qui est une production publique hospitalière de soins, par exemple. Et donc, dans ce cas précis, à la fin de la guerre, on se dit spontanément, on se dit, bah oui, bah à la fin de la guerre, bah l'État va favoriser, ou la sécurité sociale, peu importe comment on appelle ça, va favoriser le développement de la production publique avec les hôpitaux publics. En fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Hein. Au début, à la fin de la guerre, il est beaucoup plus facile d'ouvrir une clinique privée que d'ouvrir un hôpital public. Parce qu'au début, l'État est très peu enclin à donner des financements sous la pression des luttes et des rapports sociaux. La même chose pour l'industrie pharmaceutique. Il n'est jamais question de nationaliser, de socialiser ou de réguler fortement l'industrie pharmaceutique au sortir de la guerre. Donc, je pense qu'un des aspects du livre auquel j'espère contribuer, c'est voilà, de démystifier l'idée que 45, c'est un moment de gloire sur lequel il faut revenir. C'est un moment de gloire, mais ce n'est pas du tout un nirvana. Et ce n'est pas un nirvana parce qu'il y a des luttes incroyables et qui sont incroyablement puissantes, et il y a déjà des premières défaites. Alors les premières défaites, là, si il y a des membres, ils m'ont parlé tout à l'heure du réseau salariat, vous le savez, bah, les premières défaites, c'est par exemple sur le régime général, il y a une séparation des caisses. Le projet, c'était d'avoir une caisse unifiée. Ben, on va séparer d'un côté qui vont être les caisses de santé et retraite, d'un autre côté des caisses d'allocation familiale. Alors que l'enjeu de l'unité des caisses, c'est d'avoir une assise financière plus forte pour que lorsqu'il y a des déficits à un endroit, ben, on puisse compenser les déficits à un autre endroit. Hein. Et donc, c'est d'avoir évidemment plus de pouvoir. D'ailleurs, c'est un des arguments aujourd'hui massifs, on y reviendra peut-être. Hein. On vous dit toujours qu'il y a des déficits, mais il y a des déficits à certains endroits, pas à d'autres. Et on ne se pose jamais la question de la compensation. Alors que la sécurité sociale, aujourd'hui, dans son ensemble, tout régime confondu, elle va très bien. Il ne faut pas s'inquiéter pour elle. Et c'est déjà le cas à cette époque-là. Parce que déjà à cette époque-là, il y a toute la rhétorique qu'on va avoir aujourd'hui. En 1949, je m'attarde un petit peu sur ce débat dans le bouquin. Je m'attarde peut-être trop, il faut me dire d'accélérer. Hein. Et dites-moi, vous aussi. Hein. En 1949, donc la Sécu elle commence en 1946, hein, le temps de mettre en place les ordonnances. Essentiellement, c'est la CGT qui met en place les ordonnances. Hein. La CFTC qui existe, elle ne veut pas le faire. Hein. Et ils sont contre. Ils sont pour la mutualité, par exemple. Donc c'est la CGT qui le fait. En 6 mois, en 1946, mi-1946, la sécurité sociale y est mise en place. Il y a toutes les caisses, caisses primaires, caisses régionales, caisses nationales, plus un truc qu'on a un peu oublié qui s'appelle la FNOS, Fédération nationale des organismes de sécurité sociale, qui est une sorte de fédération, justement, qui permet de discuter de la bonne façon de diriger la sécurité sociale. Donc tout ça est mis en place. Hein, et en fait, dès le début, on nous dit que la Sécu, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que ça coûte trop cher, parce que ça crée des abus et parce que ça mine nos entreprises. Et alors, un moment symbolique de ce débat, il pourrait être repris tout à fait aujourd'hui par les parlementaires qu'on a à l'Assemblée, hein, c'est 1949, où il y a un grand débat à l'Assemblée nationale. Et déjà, toutes les critiques qu'on connaît aujourd'hui, elles existent. Par exemple, sur le fait que vous vous rendez compte, vous voulez faire la sécurité sociale avec les charges les plus lourdes du monde, je cite, hein, bien sûr, alors qu'on est en concurrence avec des Japonais qui se nourrissent avec un bol de riz comme leurs ancêtres. Ça, c'est ça l'Assemblée nationale en 49. Ils ne sont pas à se dire « Ouais, super, on a bien fait de faire la Sécu, c'est l'unité, c'est le consensus. » Tout ça n'existe pas, ça, c'est de la mythologie. Hein. Ça, c'est sur la concurrence internationale. Il y a d'autres aspects dans ce débat. En plus, c'est un débat qui est facilement accessible en ligne. Hein. Franchement, ce sont des archives numérisées. Il faut lire ça, c'est incroyable. Sur la construction européenne, il y a un député qui dit « Oui, mais vous, là, qui voulez faire la construction européenne, comment on fera quand on sera en concurrence avec nos partenaires, les mêmes ?» Hein ? Donc, bien longtemps avant, aujourd'hui, on se dit que peut-être c'était une mauvaise idée de faire la construction européenne telle qu'on l'a faite. Ben, ils le savent déjà. Enfin, nos élites politiques ne sont pas des idiots. Hein. Enfin, je veux dire, enfin, en tout cas, pour beaucoup d'entre eux. Quoi d'autre encore qui est déjà en question ? Les abus, hein. On nous dit déjà, oui, vous rendez compte, les médecins prescrivent n'importe comment, ça crée de l'absentéisme dans les usines. Enfin, je veux dire, enfin, tous les jours, on a ça. Et pourquoi, à cette époque-là, bah, ça produit pas ces effets ? Mais parce qu'on est dans un climat où le mouvement social s'auto-organise et il dit non. Et il ne demande pas gentiment à l'État d'être sympa avec lui, parce que c'est lui qui gère. Et donc, comme c'est lui qui gère, bah, il sait comment ça marche. Et tous ces trucs de déficit de la sécurité sociale, il le sait encore mieux que nous, aujourd'hui, qui lisons les rapports. Parce que quand on dirige les caisses, bah, on sait comment elles sont gérées et on sait s'il y a des déficits ou pas. Et dès le début, l'État essaye de faire peser sur la Sécu des dépenses qui ne sont pas les siennes. Ça donne naissance à une thématique un peu oubliée aujourd'hui qui s'appelle la thématique des charges indues. L'État dit à la Sécu, au régime général, vous allez payer pour cela, pour cela, pour cela. Et bah, les cotisants gestionnaires, ouvriers, ils disent bah, pourquoi on ferait ça ? Moi, nous, on veut bien le faire, mais intégrer alors des cotisations qui correspondent à ces prestations. Hein. Et donc, bah, souvent, on nous dit oui, la sécurité sociale est en déficit. Bah, quand on fait attention et qu'on regarde dans le détail, bah, si on enlève ces charges indues, la sécurité sociale est très rarement en déficit tout au long du XXe siècle. Donc tout ça, encore une fois, ce sont des constructions politiques, des luttes qui n'attendent pas les années 80, les années 70, la crise économique. On est rarement plus riche après une guerre qu'avant. Donc si on fait la sécu, c'est parce que la situation politique a changé. Et donc toute cette conflictualité, évidemment, elle va peser sur la suite de l'histoire. Et en fait, on pourrait très bien dire d'une certaine manière que l'histoire du régime général après 46, c'est l'histoire de sa réappropriation, de son étatisation. Et l'État va faire la même chose que ce qu'il a fait avec les mutuelles au 19e, c'est pour ça que j'en ai pas mal parlé, c'est qu'il voit là une institution d'auto-organisation ouvrière qui conteste son pouvoir et va essayer de se la réapproprier. Et donc il y a plein de tentatives. Les deux les plus importantes et les plus connues, c'est en 1967 un plan Jeanneney. Un plan Jeanneney, à l'époque, le président, c'est De Gaulle. Hein, donc dire que De Gaulle, il adore la sécu, il faut arrêter 5 minutes. Hein. En tout cas, il adore la politique sociale dirigée par l'État, pas la politique sociale dirigée par les intéressés. Or, l'originalité de 46, c'est la direction ouvrière. Donc effectivement, toute cette mythologie autour de De Gaulle qui adore la sécu, le régime général, tout ça n'existe pas, bien sûr. 1967, qu'est-ce qu'elle fait ces ordonnances ? C'est même pas une loi à l'Assemblée, hein, c'est comme maintenant. Je fais un petit aparté hein, pour là, on voit là que nos gouvernants ils prennent la procédure du 46-3 pour imposer à l'Assemblée nationale quelque chose que soi-disant elle ne veut pas. Et on se dit, oh, vous rendez compte, c'est la dictature, c'est un système autoritaire. Enfin, je veux dire, c'est le fonctionnement normal des institutions en vrai. Et c'est pas d'aujourd'hui. L'État, les gouvernements successifs, et pas depuis 1980, lorsqu'ils veulent faire passer des choses qui sont impopulaires, ils utilisent des procédures qui passent outre la représentation. Hein. Et c'est tout à fait évident dans le cas de la sécurité sociale, avec ces ordonnances, Jeanneney. Les ordonnances, on connaît les procédures d'ordonnance, c'est pareil, on veut s'asseoir sur le Parlement et faire ce qu'on a envie de faire. Et donc c'est 1967, hein, ils n'ont pas attendu Macron pour faire ça. Même si évidemment il y a ces spécificités, et ça reste toujours un scandale. Mais ce sont des choses qui sont des régularités qu'il faut comprendre. Et donc qu'est-ce qu'a fait 67 ? Alors qu'on avait 75-25 en représentation dans les caisses, on a 50-50. Et alors 50-50, il faut se rendre compte. Hein. Disons que moi, je me mets ici avec les ouvriers. Donc on est 50% d'ouvriers et là, vous avez 50% de patrons. Bah, les 50% de patrons, s'ils veulent faire passer tout ce qu'ils veulent, ils trouvent un seul ouvrier qui vote avec eux. C'est fastoche. Hein. Donc 50-50, on a l'impression de dire bah, c'est l'égalité, c'est vachement bien. Mais en fait, le paritarisme, c'est exactement l'inverse de l'égalité ou de la démocratie. Hein. D'ailleurs, le régime général en 46, la CGT, elle veut un peu imposer une personne, une voix. Et elle n'a pas une personne, une voix. Parce que si c'est une personne, une voix, ça veut dire que bon, voilà, y a très, très peu de patrons et ils n'auront aucun poids. Et ça, la démocratie, c'est inacceptable. Enfin, bon. Donc ça, c'est 67. Il y a d'autres dispositifs. Bah, les élections, elles sont supprimées en 67. Pourquoi ? Parce que dans les débats, on nous dit que les élections, ça coûte trop cher. Incroyable. Ils nous disent, on a un collègue dans mon laboratoire de recherche qui s'appelle Victor Duchesne, qui a fait sa thèse notamment sur ces ordonnances de 1967, et puis il reprend ce qui se passe à l'Assemblée, et les ministres nous disent que les élections, ça coûte trop cher. Alors en plus, quand on regarde dans le détail, ça coûte rien du tout par rapport aux cotisations qui rentrent de la sécurité sociale, mais de toute façon, la démocratie, ça coûte toujours trop cher hein, pour l'ordre dominant. Donc suppression des élections, séparation des risques, comme on dit maintenant. Donc maintenant, on a une caisse nationale d'assurance maladie, une caisse nationale d'assurance vieillesse et les caisses d'allocation familiale. Et en fait, la sécu telle qu'on la connaît aujourd'hui, institutionnellement, légalement, elle doit beaucoup plus à 67 qu'à 46. Dernière étape de l'étatisation, enfin dernière grande étape de l'étatisation, c'est Juppé en 95-96 qui arrive avec ses ordonnances. Alors dans la mémoire populaire, c'est une grande victoire. Et en fait, effectivement, il y a une partie grande victoire, puisqu'il y avait aussi une volonté de réformer les retraites, et là-dessus, il a reculé. Mais sur la sécurité sociale, sur l'aspect santé, pardon, en fait, Juppé 95-96, c'est là où il va inventer tous les noms de code qui font trembler les personnels de santé. L'ONDAM, le PLFSS, les ARS. Alors, ce n'est pas exactement à l'époque les ARS, c'est les ARH. Alors, j'explique. L'ONDAM, c'est l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie. C'est le budget de la santé. C'est à ce moment-là que se crée un budget de l'Assemblée, voté à l'Assemblée. Puisqu'avant, il n'est pas question de le voter à l'Assemblée, puisque la Sécu, ce n'est pas l'État. Donc, le PLFSS, la loi de financement de la sécurité sociale, c'est l'ensemble, c'est le budget sur l'ensemble des risques. L'ONDAM, c'est uniquement la santé. Les ARH, Agences régionales d'hospitalisation, ça date de cette époque. Contrairement à ce qu'indique son nom, Agence régionale d'hospitalisation, ce n'est pas du tout une décentralisation du pouvoir. Ben non. L'enjeu, c'est l'étatisation. Qu'est-ce que c'est que les ARH ? C'est les ancêtres de ce qu'on appelle aujourd'hui les ARS, les Agences régionales de santé. C'est des préfectures de santé qui n'ont une autonomie que de papier, parce que leur objectif et les fonds qu'elles utilisent sont décidés à l'avance par la politique du ministère. Quand on regarde dans le détail, c'est quelque chose comme 1 ou 2% du budget des ARS qui est susceptible d'être utilisé de façon autonome. Donc en fait, les ARS, elles obéissent au ministère. Et d'ailleurs, il se passe la même chose dans le monde des hôpitaux. Les hôpitaux, je les ai laissés tout à l'heure au 19e siècle en disant qu'il y avait une gestion communale. Bah, les hôpitaux aussi, ils sont complètement étatisés. Progressivement, il y a plein de lois qui font que maintenant, les gestionnaires des hôpitaux, notamment le directeur, mais pas seulement, sont nommés par le ministère. Et quand, par exemple, pendant le confinement, vous avez un directeur d'hôpital qui dit que de toute façon, à Nancy, je ne sais pas si vous en rappelez. Excusez-moi. À Nancy, pendant le confinement, il y a un directeur d'hôpital qui dit « Oui, maintenant c'est le confinement, on suspend la fermeture des lits, mais dès que ça sera fini, on va la reprendre, parce que c'est la politique normale. Bah, » Du jour au lendemain, il est viré, le gars. Il a retrouvé un autre poste ailleurs, mais bon, parce que la politique de santé, elle est complètement dépossédée des intéressés. Hein, c'est l'État qui décide tout de façon complètement hiérarchique. Encore une fois, alors, je ne développe pas trop, mais ça change quoi ? On pourrait se dire, mais finalement, ça change quoi ? Peut-être que c'est mieux, finalement, que la politique de santé soit étatisée, parce que finalement, ce sont des experts qui s'y connaissent mieux que chacun d'entre nous. Ça change quoi ? En fait, ça change tout. Parce qu'en prenant le pouvoir sur le système de santé, en prenant le pouvoir sur la sécurité sociale, il est possible pour l'État de changer sa signification. La Sécu, en 1945-1946, elle naît avec cette fameuse devise que chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Aujourd'hui, la réappropriation, elle permet de faire autre chose. Chacun cotise selon ses moyens et ses capacités de frauder ou d'optimiser, ça dépend comment on appelle ça. Et surtout, chacun reçoit, non pas en fonction de ses besoins, mais de son niveau de risque. À partir des années 70-80, puisque le pouvoir est de plus en plus dans les mains de l'État, de plus en plus dans des élites du social, ces gens ont changé la façon de penser la sécurité sociale. Et ces gens, tout le temps, et il faut vraiment leur reconnaître ça, ces élites du welfare, comme certains politistes les appellent, leur enjeu, c'est de sauver la sécu. C'est que ça marche quand même. Mais ce qu'ils acceptent, c'est l'expertise. Ce n'est pas les individus qui décident de la politique de santé. Et ce qu'ils acceptent aussi, c'est le fait qu'on dépense trop. Et donc, si on dépense trop, il faut réorganiser les dépenses. Et on va orienter les dépenses vers ceux qui en ont le plus besoin. C'est ça la politique de ciblage, de pilarisation, parfois on dit. C'est-à-dire, d'un côté, ce que l'État doit payer avec la solidarité, il le fait. Et de l'autre côté, le marché peut se développer. Et donc, c'est ce qu'on observe à partir des années 80, où il va y avoir de plus en plus de dispositifs de remboursement à 100% de certains soins. Il va y avoir un ciblage des remboursements sur certains soins très coûteux, comme l'hôpital. 90% des soins sont remboursés à l'hôpital. Les dispositifs, ça va être le dispositif affection longue durée. Quand on a une maladie grave reconnue, on est remboursé à 100% sur cette maladie, pas sur autre chose. Ce qui fait que le panier est percé et ceux qui ont les plus gros restes à charge sont aussi ceux qui sont en affection longue durée. Et les dispositifs pour les plus pauvres, dont on se dit qu'ils ne peuvent pas payer une assurance complémentaire. Et là, ça va être la CMU. Hein. La CMU, on peut se dire que c'est un truc incroyable, un progrès social incroyable, avec Jospin dans les années 90. Mais en fait, la CMU, elle acte le fait que c'est fini le remboursement à 100% par la Sécurité sociale. Ça sera possible que pour les plus pauvres. Les autres, achetez une complémentaire. Hein, c'est ça le sens de la CMU. Et en plus, la CMU et son remplaçante aujourd'hui, qui est la couverture santé solidaire, c'est un panier percé. Parce que, contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, le problème de la Sécu, si on veut chercher des problèmes, c'est pas la fraude sociale, c'est le non-recours au droit. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui auraient droit d'avoir la CMU, enfin, maintenant la couverture santé solidaire, mais qui ne la demandent pas. Pour tout un tas de raisons. Et en fait, donc on a cette situation de panier percé où les gens en fait, sont très, très éloignés des soins. Et il y a aussi des phénomènes qu'on appelle des phénomènes de palier. Donc si vous êtes au niveau de revenu qui vous permet d'avoir l'aide, vous avez le droit. Si vous êtes 1 euro au-dessus, vous n'avez pas le droit. Donc, si vous n'avez pas le droit, du coup, ça fait naître des formes de ressentiment social. Pourquoi eux, ils ont le droit et pas moi? Et donc, ça, évidemment, ça contribue à casser la sécurité sociale telle qu'elle existait. Donc, ça, c'est un aspect de ce que ça change. Un autre aspect, c'est qu'à partir du moment où l'État contrôle la politique de la sécurité sociale, il va pouvoir beaucoup plus facilement organiser son alliance et pas son opposition avec le capital, avec le marché, comme on dit ça souvent pour euphémiser la réalité, avec les entreprises capitalistes qui cherchent à faire du profit sur notre santé. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas neuf. L'État, en 1946, déjà, il laisse beaucoup de place aux cliniques, à l'industrie pharmaceutique. Mais tout ça va se renforcer à partir du moment où l'État est de plus en plus fort dans le contrôle politique du système. Et donc, dans le bouquin, il y a plusieurs terrains où je reprends des travaux qui sont assez connus, notamment sur l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, il n'y a pas d'opposition entre l'État et l'industrie pharmaceutique. C'est l'État qui a créé les règles pour que l'industrie pharmaceutique soit l'un des secteurs les plus rentables du capitalisme aujourd'hui. La rentabilité du capitalisme pharmaceutique est exemplaire du capitalisme financiarisé. Et c'est pas la faute à pas de chance. C'est parce que l'État a accepté de légiférer sur les brevets, de légiférer sur la fixation du prix des médicaments. Donc c'est pas parce qu'il y a une opposition entre l'État et le marché, c'est parce qu'ils s'entendent très bien. Et en fait, aujourd'hui, on a nos systèmes de santé qui solvabilisent la financiarisation de l'industrie pharmaceutique. Donc ça, c'est un premier terrain. Un deuxième, c'est les cliniques. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les cliniques qui représentent quand même 30% des établissements de santé, les cliniques se développent et elles s'organisent en groupe. Donc, il y a un phénomène de concentration des cliniques. Et avec des grands groupes comme Elsan ou Ramsay Santé. Donc, ils se concentrent pour organiser le parcours de soins de leurs patients. Et donc, on a cette réorganisation. Finalement, comme l'État laisse faire, par exemple, je crois que c'est Ramsay Santé. Alors, je ne me rappelle plus si c'est Ramsay ou Elsan, mais je crois que c'est Ramsay qui dit que Elsan maintenant veut être un orchestrateur de soins. Donc, ce n'est pas simplement qu'il y a des cliniques capitalistes qui font des profits sur notre santé, c'est aussi le fait qu'elles cherchent à prendre le contrôle sur le parcours de soins, à prendre le contrôle sur le patient. Et ça, encore une fois, c'est pas fait contre l'État, c'est fait grâce aux dispositions et à la construction du marché que fait l'État. Les complémentaires santé, une autre dimension de cette alliance. Comme je l'ai dit, l'État veut se concentrer sur certains soins, sur le financement de certains soins, et pour les autres, il organise le marché des complémentaires santé. Tout ça est complètement inefficace. L'un des indicateurs les plus simples pour le comprendre, c'est les frais de gestion. Les complémentaires santé, elles prennent 7 milliards d'euros cette année de frais de gestion. La sécurité sociale prend aussi 7 milliards d'euros. La différence, c'est que la sécurité sociale, elle rembourse 6 à 8 fois plus de soins. Donc si on cherche ou faire des économies, on a des exemples. On a les complémentaires, l'industrie pharma, les cliniques. Et il y aurait d'autres exemples, mais je pense que j'ai été long. Donc je propose d'en finir avec une toute petite conclusion, qui est de dire que le problème dans notre système de santé, ce n'est pas du tout l'argent. En fait, on préfère tout un tas de réformes. Ce n'est pas que l'argent. Il y a aussi ce problème, bien sûr. Mais on pourrait faire tout un tas de réformes, par exemple se passer des complémentaires santé et faire plein d'économies. Les services statistiques du ministère disent qu'en se passant des complémentaires santé, on pourrait économiser 5 milliards par an. 5 milliards. En 2 ans, c'est l'équivalent du Ségur de la santé. Vous vous rappelez, le Ségur, c'est le plan massif qui a été prévu par, par Macron au moment du confinement. Et, ce Ségur, en termes d'investissement, c'est sur 10 ans. En se passant des complémentaires, le Ségur, on en fait un tous les 2 ans. Donc de l'argent, on pourrait en trouver. La question, c'est pourquoi politiquement ça ne se passe pas ? Bah, l'une des réponses, c'est que politiquement ça ne se passe pas parce que quand on s'appuie sur l'État social, en fait, bah, ça ne marche jamais. Parce que l'État social, c'est quelque chose qui est tout le temps dans l'alliance avec le capital et dont l'objectif principal, c'est d'organiser la stabilité de la société. Pas du tout un soin gratuit, universel, une production publique de santé. Et c'est pour ça que l'une des conclusions du livre, c'est de repenser à l'auto-organisation, de repenser à la sociale et de contester le fait qu'il y ait une opposition entre l'État et le marché. Ce qu'il faut, c'est que les gens s'auto-organisent pour contester ces deux sources de pouvoir qui ne nous veulent pas forcément du bien. Voilà, merci.
Oui, voilà. Oui, moi, il y a un truc juste qui m'a gêné, mais après, en entendant la conclusion, je me dis que je comprends, mais c'est de parler de l'État comme... je veux dire, je sais pas, pour moi, l'État, c'est une machine d'organisation de la société. Et il est sa direction, elle va par rapport à qui la dirige. Et du coup, enfin, donc quand évidemment c'est des gouvernements de droite ou libéraux et qui sont par ailleurs derrière influencés par des lobbying, par des, enfin notamment les lobbying en lien avec la santé, ben forcément elle fait prendre, enfin d'autres également, elle fait prendre un sens particulier à la Sécu et à l'État social. Et voilà. Et moi, j'aurais du mal à dire que c'est l'État en lui-même qui est pas bien. Enfin, je pense que c'est la manière dont il est dirigé. Mais après, c'est enfin, voilà. Et donc, ça m'a un peu. Enfin voilà, ça m'a un peu gêné. Mais après, j'entends. Alors, je vois la conclusion. Mais la question, en fait, c'est qu'est-ce qu'on appelle État après. Mais et parce que, in fine, l'auto-organisation, bah, c'est quoi. C'est censé être ça l'État. Enfin, c'est censé être l'auto-organisation de la société pour se gérer. Après, le problème, c'est qui est-ce qui a pris le pouvoir. Voilà.
Je pense que c'est bien de prendre plusieurs questions. J'ai beaucoup parlé, non? Et surtout, si vous me voyez avec mon téléphone, c'est pas du tout de l'impolitesse, c'est que j'ai pas pris de stylo, donc je prends des notes pour pas oublier les questions. Excusez-moi.
Oui, allô.
C'est juste par rapport au fait que vous disiez que la Sécu était mise en place pour vous à cause de la guerre et de ses dégâts. Moi, j'avais entendu une personne intervenir dans une conférence sur la Sécu dire que la Sécu avait été imposée par les armes, par les personnes du CNR, sinon l'État n'en voulait pas. Donc, est-ce que c'est un fait historique avéré, ça ou...
Bonjour, bah merci, c'était très intéressant. Alors moi j'ai 2 questions. La première c'est, donc vous disiez que c'était l'auto-organisation qui existait avant 1946 qui avait permis la mise en place de la sécurité sociale et du coup d'imposer aussi, enfin c'était le mouvement social qui avait imposé ses lois au gouvernement pour sa mise en place. Et je me demandais qu'est-ce qui a manqué à cette auto-organisation pour que les réformes successives qui ont amené un peu au démantèlement de la Sécu soit possible. Et je me posais cette question aussi parce que je travaille sur un projet de sécurité sociale de l'alimentation dont peut-être certains ici ont déjà entendu parler, avec un collectif qui vise du coup à étendre le régime général à une branche alimentation. Et les questions des erreurs qui ont pu exister dans la mise en place de la sécurité sociale et du coup des points de vigilance qui seraient à avoir pour une potentielle mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation nous intéresse. Voilà.
Moi, je me demandais si vous pouviez parler plus concrètement de comment ça se passait en 1946 au niveau de l'auto-organisation.
Bonsoir, d'abord merci. Alors, j'ai quelques questions assez. Enfin, je pense, appellent des réponses courtes. Mais alors la plus longue, peut-être, c'est est-ce que vous avez, est-ce qu'on a des exemples à l'étranger de socialisation de la santé comme on l'a connu en France en 46? Et en particulier, je ne sais pas si on a, il y a des choses qui existent sur les systèmes de santé dans les démocraties populaires et enfin de l'autre côté du rideau de fer. Vous avez parlé des charges indues. Je ne sais pas si vous avez juste deux, trois exemples pour situer, parce que j'ai, enfin, moi, je ne connais pas. Et après, ça rejoint un peu la première question au niveau de l'État. C'était effectivement la question de la gauche au pouvoir. Pourquoi, comment la gauche, quand elle a eu le pouvoir en 81, en 97, et après, pourquoi elle a continué en fait, dans les logiques d'étatisation? Voilà.
On prend une dernière question, puis après, parce que là, ça commence à faire. Ça,
bonsoir, merci beaucoup. Moi, je me posais la question si vous aviez regardé aussi du côté de la formation des élites politiques, enfin, typiquement les énarques qui s'occupent de la gestion de la sécurité sociale, parce qu'ils sont souvent, entre guillemets, je pense, formatés sur la gestion, entre guillemets, puisqu'ils ont souvent qu'une vision justement gestionnaire et comptable de la Sécu. Voilà. Merci.
Merci. Merci pour toutes ces questions, super cool. Évidemment, je ne prétends pas du tout faire le point sur la question et n'en parle plus. Enfin, tout ça, c'est un débat ouvert. Je m'attends à voir plein de critiques, comme celles que vous avez faites ici. Et pour beaucoup d'entre elles, ça va appeler à du travail de ma part pour réfléchir. Peut-être améliorer, peut-être nuancer, etc., etc. Donc, bon, c'est un point quand même qui est important. Hein. J'arrive pas avec, et avec tout clé en main. Alors, c'est l'État qui dirige. Alors, ce que je fais pas dans ce bouquin et ce que j'ai pas vraiment fait dans mes recherches, c'est d'essayer de me doter d'une théorie de l'État. Ça, le bouquin, c'est pas du tout un bouquin théorique ni un bouquin statistique. Ce que j'essaye de faire, c'est d'analyser le mouvement des institutions. Et en fait, en sciences sociales, l'habitude qui est prise, c'est justement de ne pas nommer l'État ou de dire que c'est toujours plus compliqué. Alors que par exemple, sur la question du capital, souvent, en fait, vous parlez du capital, on ne vous dit pas « oui, mais le capital, c'est plus compliqué », alors que ça l'est aussi. Hein. Donc c'est une posture, c'est une approche où je pose cette hypothèse que, effectivement, l'État, quand on regarde historiquement les façons dont c'est construit, ben, c'est une forme de centralisation du pouvoir qui se caractérise par des formes de domination et par le refus de la démocratie. J'en ai pas beaucoup parlé là, mais l'un des enjeux, c'est que j'essaie de regarder tout au long de la période les gouvernements alors, et les formes de politique qui sont, prises qui sont mises en œuvre, comment elles naissent et qu'est-ce qu'elles sont. Bah, c'est lié à la guerre, c'est lié à la répression, c'est lié au fait de vouloir contrôler les populations. Donc moi, l'État que je vois, c'est ça. Moi, je ne vois pas d'État sympa, en fait. Où, une fois que les élections ont changé, on conquiert le pouvoir d'État et on est capable de changer la politique de l'État. En fait, ça existe, mais dans des cas spécifiques, qui sont notamment liés à la guerre, où il y a des enjeux spécifiques, qui sont ceux de maintenir un certain ordre. Donc, moi, c'est cette conception-là que j'ai. C'est une conception très naïve, très, très faible, pas du tout théorique, mais c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça fait, l'État, plutôt qu'est-ce que c'est. L'idée, c'est de dire que, bah, y a d'autres formes du politique. Et ces autres formes du politique, bah, par exemple, c'est l'auto-organisation. Ce que je fais avec... Et il ne s'agit pas de dire que l'État, c'est quelque chose de mauvais en soi. Je ne le fais pas dans le bouquin, ou en tout cas pas directement, mais il est évident que dans l'histoire du développement, l'histoire, par exemple, en France, le fait qu'à partir de 1789, le pouvoir politique soit séparé de la personne du roi et plus largement de la noblesse, c'est une super nouvelle. Et donc l'État, de ce point de vue-là, est un progrès. De la même façon que le capital, comme rapport social de production, quand il remplace le servage, c'est un progrès. Mais l'hypothèse implicite, c'est de dire que de la même façon qu'il existe d'autres modalités d'organisation économique que le capital qui sont probablement plus progressistes, bah, l'État, c'est pareil. Il existe d'autres modalités qui permettent d'éviter des formes de domination. Et moi, l'État que je vois, les gouvernements que je vois se succéder,
ils sont tous dans la volonté de centraliser le pouvoir et de contrôler. Je le disais tout à l'heure un petit peu, les 46-3, les ordonnances, tout ça, moi, je ne vois pas du tout ça comme une exception à la règle. C'est toujours comme ça que ça se passe. Dans la Révolution française, il y a une séparation dès le début entre la question de savoir est-ce que l'organisation politique doit être démocratique ou représentative. Et pour les gens qui sont au pouvoir à ce moment-là, bah, ils se rendent bien compte que ce n'est pas du tout la même chose. Hein, que quand on a des représentants, ça implique une organisation qui est tout à fait différente. Et c'est pour ça que... Il y a plein de gens qui vont défendre ce qu'on appellerait aujourd'hui une démocratie directe, qui à l'époque s'appelle une démocratie. Et par rapport à ça, le mouvement de l'État, c'est de constamment contester ça. Et c'est que par les luttes politiques, les révolutions, qu'il va y avoir des évolutions. Et donc c'est un petit peu ça. Alors je me doute bien que c'est une réponse qui est pas forcément satisfaisante, mais je trouve que cette hypothèse d'un État qui est un État prédateur, qui est un État qui est un outil de domination, elle est à mon avis très fertile pour comprendre ce qui nous arrive. Et à mon avis, vraiment, la conquête de l'appareil d'État en France, ça n'a jamais été le préalable à de meilleures politiques sociales. Les politiques sociales, telles que je l'analyse, et notamment moi j'analyse les questions de santé, c'est pas par la conquête de l'appareil d'État que ça se passe. C'est lorsque l'État fait la guerre, ou bien lorsque les gens se révoltent. Et alors évidemment, bon, tout ça est tout à fait discutable, très contestable et très contesté, hein, c'est sûr. Alors je reprends mon fil de questions. Sur la question du CNR, en fait, j'ai entendu parler de ça, mais je n'ai pas trouvé de source historique qui en parle comme ça, sur le fait que la sécu aurait été imposée par les armes, etc. etc. Donc c'est du travail encore... Je ne connais pas, donc je ne me prononce pas. Qu'est-ce qui manque à l'auto-organisation pour éviter le démantèlement de la sécu? En fait, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte, et moi, dont je ne me rendais pas compte avant de commencer ces recherches, c'est tout simplement qu'en fait, la sécurité sociale, le régime général, c'est-à-dire une contestation du pouvoir de l'État par les intéressés eux-mêmes, par des élections au niveau local dans lesquelles les gens ont du pouvoir par eux-mêmes et pas par des représentants, ou en tout cas de façon beaucoup plus directe, c'est contesté dès le début. Et la raison pour laquelle il y a un démantèlement qui est hyper rapide, à mon avis, c'est simplement parce qu'il y a une très large coalition contre la Sécu. Les médecins ne veulent pas collaborer avec la Sécu, alors qu'ils ont collaboré avec Vichy quand même. Les cadres, la construction des cadres en France. Avant, on les appelle les collaborateurs, après, on les appelle les cadres. Ça, par exemple, il faut lire Boltanski là-dessus. Les cadres, ils se construisent contre les institutions qui sont créées par le salariat ouvrier, et donc ils vont créer l'Agirc-Arrco. Il va y avoir les mutuelles qui vont conserver du pouvoir dans le cadre des caisses agricoles, ou les notables qui gèrent les caisses agricoles d'avant-guerre, ils ne veulent pas non plus être avec des ouvriers. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais on se dit il est quand même très compliqué ce système de santé en France ou ce système de sécurité sociale, il y a plein de caisses partout. En fait, l'ambition d'Ambroise Croizat, je n'ai pas prononcé son nom, c'est l'occasion, c'est justement de faire un régime qui soit unique, avec des élections au niveau local. Mais en fait, c'est parce qu'il y a une opposition qui est massive à ça, par les gens qui sont les notables qui détiennent le pouvoir, que tout ça est impossible. Et si c'est compliqué, c'est justement parce qu'il y a eu cette opposition au régime général. Si aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition et qu'on veut mettre tous les régimes spéciaux, tous les régimes dans le régime général, c'est parce qu'il y a un contrôle du régime général. Donc, pourquoi le démantèlement? Parce qu'en face, il y a une force qui était ultra coordonnée contre le régime général. Et que, par exemple, la CGT fait le régime général toute seule, pour dire concrètement, il y avait une question, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que concrètement, en 1946, on a encore les assurances sociales de 1928-1930, les caisses d'allocation familiale de 1932, les caisses d'allocation d'assurance contre les accidents du travail de 1898, et tout ça est géré par des gens qui sont très différents. Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Concrètement, il faut qu'ils trouvent des locaux, il faut qu'ils trouvent des gens à désigner pour les gérer, ces caisses, il faut qu'ils décident de comment ça va être organisé, qui va s'en occuper. Il faut que, grande nouveauté en 1946, il faut qu'ils aillent collecter les cotisations. C'est pas du tout l'État qui collecte les cotisations auprès des entreprises, c'est le régime général. Donc c'est ça qu'ils font concrètement. Et c'est un travail absolument monumental qui est fait en très très peu de temps. Parce qu'on dit 45, on dit souvent les ordonnances de 45. C'est vrai, les ordonnances sont prises en 45. 19 octobre et 4 octobre 45. Mais c'est de l'encre sur du papier. Hein. C'est comme le droit au logement opposable aujourd'hui. Hein. Enfin, je veux dire, c'est de l'encre sur du papier. Il y a des gens qui dorment dans la rue. Bah, 46, c'est la même chose, c'est de l'encre sur du papier. Faut-il encore qu'il y ait des forces sociales qui s'en saisissent et qui construisent caisse par caisse tous ces trucs-là. Et non seulement ils vont faire les caisses qui étaient prévues, comme je l'ai dit, hein, au niveau local, au niveau régional, au niveau national, mais en plus, ils vont faire la FNOS, où ça permet aussi de rebondir sur notre question. Dans la FNOS, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, les ouvriers qui sont là, qui s'organisent, qui sont... Qui ne décident pas. La FNOS, c'est au niveau national, mais elle ne décide pas. Parce que c'est des gens qui sont mandatés par les caisses. Et c'est les caisses qui décident. Hein. Les caisses au niveau local. La FNOS, qu'est-ce qu'elle fait ? Bah, elle organise tout ça. Parce que c'est un boulot monstrueux de savoir comment est-ce qu'on met en place des procédures. Où est-ce qu'on va mettre des caisses qui vont permettre de récupérer l'argent et donner l'argent quand il y a des transferts à faire. De négocier avec les médecins. En fait, c'est ça qu'ils font concrètement. Ils font tout ce boulot, et ils font tout ce boulot dans une hostilité quasi générale. Alors que... C'est ce qui se dit. Ouais, voilà. Non, ça, voilà. Et aussi parce que, enfin voilà, il fait ça, mais avant, ça, lui, c'est un vrai travailleur, c'est un vrai ouvrier. C'est insupportable pour les médecins, vous vous rendez compte ? Vous bossez pour une caisse qui est dirigée par des métallos. Enfin, je veux dire, c'est la vie de l'humanité pour eux. C'est pas possible. Mais c'est pour ça qu'il y a une hostilité terrifiante. Et oui, donc la FNOS, en fait, elle fait tout le travail d'encadrement, enfin d'aide à l'encadrement. Elle va créer une revue dans laquelle elle va essayer d'expliquer comment fonctionnent les caisses, quels sont les problèmes qui sont posés, les problèmes concrets, comment on peut les résoudre. Elle va créer une école pour faire l'apprentissage de toutes ces règles. Et ça va être contesté par l'État, qui va ouvrir une école concurrente, celle qu'on connaît, l'EN3S à Saint-Etienne. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais ça, c'est une école concurrente. Avant, il y en a une qui est créée par les ouvriers. Mais... Après, et donc, il va y avoir la production d'élites du social, qui sont des gens qui viennent d'autres milieux sociaux. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'ils sont plus, ils sont plus vertueux, ils sont moins vertueux, mais ils viennent d'autres milieux sociaux, ils portent d'autres conceptions du monde, ils portent d'autres expériences, et donc forcément, ils vont avoir une façon de poser les problèmes et de vouloir organiser la sécurité sociale qui est très différente. Hein. Et j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, par exemple, c'est ce que certains politiques appellent les élites du welfare, qui sont ces gens qui pensent et décident de la mise en place des politiques sociales dans les cabinets ministériels, etc. etc. Bah, ces gens, ce sont des gens qui viennent de milieux sociaux plutôt favorisés, qui vont dans les mêmes écoles, qui ont les mêmes conceptions, qui de plus en plus, mais c'est pas nouveau, développe des comportements qu'on appelle habituellement de pantouflage. Donc un coup je travaille dans le privé, un coup je travaille dans le public, etc. etc. Évidemment, là, enfin, je veux dire, Macron, enfin, c'est terrible à quel point on voit que les allers-retours entre le privé et le public sont constants parmi ses dirigeants. Mais c'est pas quelque chose de neuf, c'est quelque chose qui est plutôt constant, qui connaît des moments hauts, des moments bas. Et donc oui, effectivement, il y a un développement d'une nouvelle élite sociale à partir du moment où on se réapproprie l'institution. Parce qu'en fait, ce n'est pas De Gaulle, ce n'est pas Jeannet, ce n'est pas Juppé qui dirige. Il faut bien des gens qui sont formés et qui dirigent à ces trucs-là. Et ce sont en plus, il faut le dire, c'est des grands experts qui connaissent très bien comment ça marche. Hein. Mais forcément, comme ils portent d'autres conceptions du monde, d'autres intérêts, bah, ça marche différemment que le régime général. Je regarde... Oui, il y a une question à propos de la sécu sociale de l'alimentation. Quelles erreurs on pourrait éviter ? Je n'y ai pas du tout réfléchi, mais spontanément, il me vient un truc, c'est le conventionnement. La grande nouveauté avec la sécu, c'est le conventionnement. Le conventionnement, c'est le fait, on va chez le médecin, on en a qui sont conventionnés secteur 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un prix administré, qu'on appelle le tarif opposable. C'est-à-dire, s'il est secteur 1, le médecin il est obligé de vous faire ce prêt. Et la Sécu est obligée de vous rembourser un pourcentage de ce prêt. Et c'est ça qui permet de solvabiliser le truc. Parce que toute une partie du refus des médecins, ça a porté sur quoi ? Sur l'opposition au contrôle des prêts. Et en fait, jusqu'en 1960, hein, pas 45, jusqu'en 1960, les médecins s'opposent. Les organisations professionnelles médecins s'opposent à ça. Et il n'y a pas de tarif opposable, ou dans un petit nombre de départements. Et donc ça, c'est un mécanisme génial. Parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est le financeur qui se met d'accord avec le producteur sur un prix et qui permet au producteur de garder une certaine liberté dans sa pratique Contrairement, par exemple, à quand vous êtes un médecin qui travaille, par exemple, pour prendre des cas étrangers aux États-Unis, quoi, vous travaillez souvent pour votre employeur, qui est un employeur capitaliste qui vous donne des indications qui ne sont pas forcément celles qui vont avec l'intérêt du patient. Et contrairement aussi à une médecine qui serait une médecine purement étatisée, où c'est la règle administrative qui prévaut et il n'y a pas d'autonomie dans le travail. Donc le conventionnement, c'est un truc, ça permet de solvabiliser une production autonome. Et ça c'est super, parce que on parle souvent du fait que ce sont les ouvriers qui dirigent, mais en face de ça, il y a toute une partie de la production de soins qui est elle aussi autogouvernée par les travailleurs. Hein. En fait, la sécurité sociale, elle libère le travail, puisque les médecins sont plus obligés, pour ceux qui avaient des difficultés financières et ils étaient nombreux, à faire la course aux patients, à être dans l'incitation aux patients. Dans les hôpitaux, comme on est mieux financé, le travail est plus défini par les professionnels plutôt que par des pouvoirs externes. Et donc ça, c'est une grande avancée. Mais le truc qui a été fait, qui est absolument incompréhensible, c'est de conventionner, par exemple, des médecins de secteur 2. C'est de dire, vous ne voulez pas dealer avec nous des prix, donc on va vous rembourser quand même une partie du prix. Parce que quand vous allez chez un médecin de secteur 2, vous n'êtes pas remboursé zéro, vous êtes remboursé le pourcentage du secteur 1. Et donc, en fait, d'une certaine manière, on solvabilise le fait que certains médecins fassent du secteur 2. Et donc ça, c'est une erreur fondamentale. Par exemple, là, en ce moment, il y a un débat sur la liberté d'installation. Enfin, il faut dire tout simplement, les médecins ne voulaient pas aller où on a besoin de vous, on ne vous conventionne pas. Restez libéraux, mais des vrais libéraux. C'est-à-dire, comme un avocat, vous êtes libéral, vous cherchez vos clients. Hein. Là, vous allez moins rigoler quand même. Hein. Donc ça, je pense que c'est une erreur assez importante. Mais c'est une erreur, mais en même temps, elle est liée aussi au rapport de force. Hein, les médecins, bon, je regarde un peu ce à quoi je n'ai pas trop répondu. Exemple à l'étranger, j'aimerais répondre, j'aurais des choses à dire. Hein. Mais en fait, je me suis rendu compte en travaillant sur ce bouquin que moi, j'ai commencé mes études, ma thèse, en 2010. Et en fait, il n'y a que 10 ans après que je comprends un peu comment ça marche la sécu en France. Donc je me trouve complètement maintenant incompétent pour parler des systèmes de santé dans les autres pays. Parce que je sais ce qu'on m'en a appris. Mais si on m'a appris de la même façon que moi, j'ai appris sur la sécu en France, je ne sais pas. Franchement, je ne saurais pas dire s'il y a des choses qui sont comparables. Et alors du coup, oui, sur les charges indues, je donne des exemples. Enfin, c'est simple. Hein. Par exemple, le régime général, donc c'est le régime des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce. Et en fait, l'État va dire, voilà, vous allez prendre en charge les déficits de la caisse de telle profession indépendante. Mais pourquoi ? Ils cotisent, eux, dans leur caisse, ils ne veulent pas être avec nous, et c'est nous qui allons éponger les déficits ? Oui, faites-le. Mais ça se fait... Voilà, mais ça. Oui, mais ça se fait dès le début. Et dès le début, il y a des conflits très importants au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie, où, en fait, justement, l'État cherche à imposer plein de trucs. Par exemple, pour les fonctionnaires, le taux de cotisation des fonctionnaires, il est calculé plus bas que ce que sont sur les questions de santé, sur le risque santé. En 46, le taux de cotisation des fonctionnaires est calculé plus bas que ce qu'il devrait être calculé pour pouvoir financer leurs droits. Et donc, les gestionnaires, ils disent pas qu'on ne veut pas des fonctionnaires. Et, enfin, les intéressés, ils disent pas ça. Ils disent, nous, on veut bien des fonctionnaires, mais il faut qu'ils cotisent comme les autres. Parce que sinon, effectivement, on va aller vers des déficits. Et la question du déficit, c'est une question politique extrêmement importante qui justement est au cœur d'une des batailles de la sécu sur l'étatisation. Parce qu'à partir du moment où on dit qu'il y a un déficit de la sécurité sociale, ça veut dire que c'est mal géré. Si c'est mal géré, alors on peut reprendre le pouvoir. Et du coup, cette question des charges indues, c'est une question centrale dans les débats, qu'on a complètement oublié, bien sûr, parce que voilà, ce gars-là... Alors oui, le trou de la sécu aussi, voilà, parce qu'aujourd'hui c'est complètement étatisé, mais c'est un peu la même idée. C'est, on vous dit tous les ans, oh, regardez le trou de la sécu, c'est terrible. Je sais plus, cette année c'est 20 milliards. Je crois que c'est 20 milliards cette année le déficit du régime général. On vous dit ça et du coup vous dites, ah oui, mais il faut quand même sauver la sécu, là, on abuse un peu. Hein. Sauf qu'on ne dit pas que la sécu, en fait, on peut en parler du point de vue du régime général de sécurité sociale. Dans ce cas-là, effectivement, il y a un déficit. Mais sinon, d'un point de vue comptable, quand on regarde dans les comptes nationaux de l'INSEE, en fait, il y a trois grandes catégories pour le public. Il y a ce qu'on appelle les APUC, administration publique centrale, l'État, les APUL, administration publique locale, les collectivités territoriales, et les ASSO, administration de sécurité sociale. Dans les administrations de sécurité sociale, il y a le régime général, mais pas que. Il y a plein d'autres trucs. Et en fait, quand on regarde le compte de toutes ces administrations de sécurité sociale, mais cette année, et ce qui est prévu pour cette année, ce qui était prévu avant le et ce qui existait avant le confinement, en fait, il y a un excédent de ces régimes. D'ailleurs, quand on dit qu'il y a de la dette publique, on confond souvent deux choses, la dette de l'État et la dette de la Sécu. En fait, l'endettement public est très important. C'est quelque chose de l'ordre de... Je sais plus maintenant, ça a beaucoup évolué avec la Covid. De 2000, avant la Covid, c'était 2000. Donc maintenant, ça doit être plutôt 2002 ou 2300 milliards. Sauf que ce qu'on dit jamais, c'est que les administrations de sécurité sociale, elles représentent 10% de cette dette. Quasiment rien. Donc c'est quelque chose comme 250 milliards, alors que les revenus annuels des administrations de sécurité sociale, c'est quelque chose comme 500 milliards. Donc vous imaginez, enfin, si vous êtes endetté pour votre appartement, c'est comme si vous pouviez rembourser votre appart dans l'année si vous faisiez que rembourser votre appart. Je veux dire, ça, c'est rien du tout. Et c'est pour ça que la sécurité sociale est en excellente santé financière, contrairement à ce qu'on nous raconte. Et ceux qui nous le disent le mieux, ce sont les agences de notation financière. Parce que j'en ai pas parlé, je pourrais en reparler plus tard. Hein. Mais la Sécu, aujourd'hui, elle est financiarisée. C'est-à-dire que quand il y a une dette, quand il y a un déficit, plutôt que d'aller faire, plutôt que d'utiliser augmenter les cotisations ou aller chercher des financements au trésor, ce qui se passe, c'est que la Sécu, elle va chercher de l'argent sur les marchés financiers. Et donc, comme toutes les institutions qui vont chercher de l'argent sur les marchés financiers, eh bien, les agences de notation notent la qualité de cet endettement. C'est-à-dire, est-ce que cette institution est susceptible de rembourser ? En fait, la Sécu, elle est toujours parmi les meilleures notations. Hein. Même en ce moment, alors qu'elle a été un peu dégradée du fait de la Covid, c'est toujours les meilleures notations. Le capital adore les emprunts de la Sécu parce qu'il sait que c'est hyper stable, c'est hyper sécurisé. Pourquoi ? Parce que la Sécu, elle est assise sur les salaires. Et les salaires, ça rentre tout le temps. Ah bon ? Tout ça pour parler sur la Sécu.
C'était juste pour dire un petit mot par rapport à... Attends, excuse-moi, je passe. Hop. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression, dans une des grandes évolutions là, de direction que ça prend, la Sécu, c'est quand même vachement tout le développement du numérique dans la santé. Et là, le projet de loi Sécu qui vient de passer, donc avec le 49.3, hyper imposé par l'État et la santé... Comme on sent que c'est un truc qui touche et qui fait hyper mal, enfin là où ça attaque quoi. Il y a j'ai l'impression qu'il y a un truc intéressant à penser à ce niveau-là de ce virage quoi aussi.
Oui, moi j'avais juste une question rapide de prospective par rapport au coup de rétroviseur que vous avez. Quelles évolutions vous voyez dans le débat politique autour justement de la Sécu ? Enfin, vous avez rappelé qu'il y a des débats sempiternels qui existaient déjà en 46, mais quels sont les prochains enjeux et quelle est la prochaine bataille autour de la Sécu pour vous dans les années qui vont venir ?
En 67, du coup, on impose le paritarisme entre patronat et salariés pour la gestion de la sécurité sociale du régime général. Et pourquoi on n'a pas accentué vers le patronat cette gestion et on a préféré du coup accentuer vers l'étatisation de la Sécu ?
Waouh. D'abord, je vais dire que les remarques sur le numérique et la santé, c'est super important. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ça. J'ai une collègue qui est en train de commencer sa thèse dans mon labo sur ces trucs-là. Et par exemple, elle travaille sur mon espace santé. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais mon espace santé, maintenant, on l'a tous. On ne nous a pas posé la question. Hein. On l'a tous. Ouais. Voilà. Et en fait, d'ailleurs, il y a une asso qui s'appelle la Quadrature du Net, qui est très en pointe sur les questions de numérique et évidemment de prédation par les outils numériques, qui a beaucoup travaillé sur ces trucs. Il y avait aussi le Health Data Hub, parce que évidemment, pour les grands acteurs capitalistes, mais aussi pour l'État, qui ne sont pas les mêmes, il y a tout un intérêt, de leur point de vue, à contrôler les données de santé. Et l'État, c'est pas nouveau. Hein. Enfin, je veux dire, la question du numérique. En santé, c'est pas nouveau. Et la première période de l'informatisation, elle a été utilisée pour contrôler le travail des professionnels, en fait. Par exemple, tous les dispositifs qu'on connaît souvent un peu comme T2A, la tarification à l'activité, bah, ça vient d'un truc qui s'appelle le PMSI, Programme de médicalisation des informations de santé. Donc tout ça, c'est très lié au développement du numérique, mais une forme particulière du numérique, qui est celle qui cherche à prendre le contrôle, ou en tout cas à être en mesure de contrôler ce qui se passe dans les institutions. La même chose, hein, je ne sais pas si vous savez, mais là, vous tous, quand vous allez chez votre médecin traitant, eh ben, il est payé en fonction de ce qu'il vous fait. Ça s'appelle la rémunération sur objectif de santé publique. Donc, il y a des indicateurs, et par exemple, si vous prescrivez ton générique plutôt que pas de générique, eh ben, il aura plus de sous. Il ne s'agit pas de questionner le fait que c'est bien ou c'est pas bien, on pourrait en discuter. Hein. Mais voilà, la numérisation, elle est utilisée d'abord pour contrôler le travail, pour contrôler les dépenses. Et là, aujourd'hui, et c'est vrai que c'est assez inquiétant, on voit que se développent de nouveaux outils numériques qui sont très en lien avec les entreprises. Et par exemple, pour Mon Espace Santé, ils sont en train de développer tout un tas de partenariats avec des producteurs privés d'applications et des trucs de folie, par exemple. Ce que me racontait cette collègue qui s'appelle Marie-Lou Delaire, c'est que, en fait, là, dans Mon Espace Santé, ils veulent intégrer des trucs genre méditation, quoi. On ne vous trouve pas de médecin, on ne vous trouve pas de professionnel de santé, mais vous allez méditer. Bon, moi, je ne suis pas, enfin, je suis pas professionnel de santé, mais ça interroge quand même. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait de ces données? Qui va les contrôler, etc., etc. Donc, évidemment, il y a plein de questions là-dessus, et c'est clair que c'est un chantier à travailler. Pourquoi pas le patronat? Je pense qu'ils n'auraient quand même pas osé. Enfin, après, c'est une hypothèse. Hein. Mais déjà, l'étatisation de la Sécu, ça ne s'est pas passé gentiment. Hein. Jeannet, ordonnance. Juppé, ordonnance. Ça se passe jamais gentiment. Hein. Parce qu'il y a des contestations très fortes et il y a un attachement qui s'explique par une mémoire populaire qui parfois se perd, parfois revient. Et franchement, de donner le système de santé au patronat, c'est pas sûr qu'il le veuille, hein, mais bon, enfin, ça aurait été le feu, quoi, encore plus. C'est une hypothèse, mais après, je sais rien et je sais même pas si ça a été en discussion. Hein. Et enfin, sur la prospective, la prochaine bataille. Moi, je vous parlais de ma bataille à moi. Moi, ma bataille, ça a été de comprendre des trucs tels que j'essaie de les expliquer dans le livre. C'est-à-dire comment ça a été possible. Parce que, évidemment, moi, je suis un universitaire, donc souvent, quand on est universitaire, on aime bien lire des bouquins pour le plaisir de les lire, pour le plaisir de l'érudition et tout et tout. Bouquins d'histoire, c'est génial et tout, machin. Mais évidemment qu'il y a un intérêt politique qui est derrière. C'est pour ça que c'est à la fabrique, hein, et que c'est pas, j'en sais rien, presse universitaire, des trucs comme ça. C'est que, à mon avis, un des éléments pour gagner les prochaines batailles, c'est de se réapproprier cette histoire et de prendre au sérieux l'hypothèse selon laquelle c'est pas forcément en conquérant l'appareil d'État qu'on arrive à changer la politique de santé. Alors, moi, je respecte complètement les gens qui pensent que c'est possible. Et en fait, je vais vous dire un truc. Hein, moi, ça m'arrive d'aller voter. Hein. Je veux dire, moi, je suis pas du tout... Enfin, je suis un gars normal. Je veux dire, s'il y a des moyens de changer le monde à portée de main, j'y vais. Mais en fait, j'y crois plus du tout. Et j'y crois pas parce que j'ai été élevé militant comme ci, comme ça, pas du tout. C'est parce qu'en fait, quand je regarde ce qui s'est passé, je vois pas de moment où il n'y a pas eu... des forces sociales qui ont imposé au capital, à l'État des choses. Enfin, ça ne se passe jamais dans la gentillesse. C'est pour ça que l'enjeu du bouquin, c'est de montrer que les institutions de la sécurité sociale, qu'elles soient portées par l'État, ou bien qu'elles soient portées par les intéressés eux-mêmes, c'est des institutions du conflit. Hein ? Toujours du conflit, jamais du compromis. On nous parle souvent de compromis. Enfin, si par compromis on dit que un jour on arrête la guerre ou un jour on arrête de se taper dessus, ok, à ce compte-là, tout est compromis. Mais en tout cas, le changement dans l'ordre de la politique de santé, moi je trouve qu'il est beaucoup, il y a d'autres choses bien sûr, mais il est beaucoup tiré par le conflit. Et donc, à mon avis, les prochaines batailles, ça va être pour faire des choses qui ne sont pas radicales du tout, se passer des complémentaires santé. Limiter le gavage de l'industrie pharmaceutique, et je ne parle même pas de socialisation, de nationalisation, hein, juste limiter le gavage. Hein. Arrêter le déploiement scandaleux des cliniques, et en fait, il ne faut pas penser que les cliniques, c'est mieux que l'hôpital public. Hein. Alors, si vous pouvez payer, c'est mieux, Mais dans le bouquin, je parle d'un collègue qui s'appelle Nicolas Bellorget, je ne sais pas si vous connaissez, qui est spécialiste de l'hôpital public. Et là, il a fait un travail sur l'hôpital, enfin, sur une clinique privée. Mais en fait, il montre des choses comme on a pu entendre récemment sur les EHPAD. Dans un de ces terrains, il parle aux professionnels de santé qui sont là. Et en fait, pour réaliser le profit nécessaire à l'entreprise capitaliste, il faut prendre sur tous les coûts. Il faut faire des économies partout. Et par exemple, alors que les aides-soignantes donnent aux gens à manger ce qu'ils ont envie de manger quand ils sont à l'hôpital, bah ça ne plaît pas au directeur de ces cliniques, à l'encadrement de ces cliniques, parce que bah, quand on donne trop à manger, ça fait des coûts en plus. Alors, ils ont donné pour mission à l'une des aides-soignantes, qui est appelée par les autres, Madame Compote, de surveiller qu'on ne donne pas trop de compote et qu'on ne donne pas trop d'alimentation en plus aux gens. Enfin, je veux dire, c'est ça le capital. Enfin, lui aussi, il n'a pas la main moins dure pour faire des économies et pour organiser une santé qui, a priori, n'est pas celle que l'on désire. Donc, la bataille, c'est, à mon avis, enfin, ma bataille, c'est de se réapproprier ça. Et je pense que c'est bien de se réapproprier ces idées-là, d'y réfléchir, de ne pas être dans une optique stratégique militante où on va se dire on va que être dans la lutte, dans les têtes de cortège, ou être que dans l'élection. Mais en tout cas, réfléchir sérieusement au fait que le changement social, bah souvent, c'est le conflit. Hein. Et à une époque, on appelait ça la lutte de classe.
Merci, Nicolas. On finit là-dessus.
C'était Rencontre avec Nicolas Da Silva autour de son livre La bataille de la Sécu, une histoire du système de santé, paru aux éditions La Fabrique.
Radio Livre Dormir.